Quel bonheur de se retrouver dans la présence de Dieu. Oui. Alors nous allons vivre ce que nous venons de chanter, à savoir tout faire pour que la présence de Dieu soit notre continuel partage. Vous avez remarqué que dans les textes qui parlent du retour de Jésus ou du moment où doit nous prendre, il nous est rappelé continuellement de veiller. Matthieu chapitre 24, verset 42. Si vous vous souvenez ce que je vous ai dit mardi dernier, je vous ai demandé de travailler trois textes. Vous vous en souvenez ? Vous étiez là, ce qui était là mardi dernier ? Levez la main. Donc, ceux qui étaient là, vous avez dû travailler. Bon. Vous avez remarqué cette parole, toute simple, quand Jésus parle des prophéties qui concernent son retour, le mot d'ordre est pour ainsi dire toujours le même, veillez. Matthieu chapitre 24, verset 42. C'est ce qu'on fait. En vérité, c'est ce que l'on fait ce soir, on veille. On veille sur nos âmes. Matthieu chapitre 24, verset 42. C'est le quatrième texte dans les Écritures où il est parlé des pleurs et des grincements de dents. Mais c'est dans le contexte des enseignements sur le retour. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. On peut quand même dire Amen parce que c'est la parole de Dieu. Alors nous venons de lire le quatrième texte où Jésus utilise cette expression qui fait froid dans le dos. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous vous rappelez les trois premiers textes, le contexte dans lequel cela a été dit? Allez, vous allez m'aider. Il vous faut m'aider. Je suis un pasteur qui vieillit. J'ai besoin d'être aidé. Alors, vous vous rappelez le premier contexte, c'était quoi? Oui, mais c'était la foi. C'était bien le contexte où Jésus dit que beaucoup vont se retrouver mais pas prêts. C'est qu'ils n'auront pas eu une foi mais que Dieu attendait. Le deuxième contexte, où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, les scandales et les iniquités. Eh bien, dites donc, la note va être salée. Et le troisième texte, rappelez le contexte, l'apparence de la piété. C'est bien. Donc, le quatrième texte, c'est celui-ci, où Jésus explique que, eh bien, il y a des gens qui ne seront pas prêts. Cette semaine, c'est hier, il y a une chrétienne qui est venue, elle n'est pas de l'église, elle est venue me voir. Elle me dit, Monsieur Gou, j'ai une question à vous poser. Elle était toute choquée, je crois qu'elle a découvert certains textes dans la Bible. Elle m'a dit, est-ce qu'à l'enlèvement de l'Église, tous les chrétiens seront prêts? Tous les chrétiens seront enlevés? Pour elle, c'était dans sa tête, oui. Et elle a compris, avec des textes comme celui-ci, que beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts. D'ailleurs, le texte qui suit, qu'on appelle la parabole des talents, des dix vierges, Matthieu 25, il n'est pas écrit dans ce texte qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, mais c'est tout comme, parce que c'est le même principe. Il est dit qu'il y en a la moitié qui ne seront pas pris. Mais revenons à notre texte, dans Matthieu chapitre 24, il y a un homme qui est chargé de donner la nourriture. Alors, qui c'est ça qui est chargé de donner de la nourriture dans l'église? Oui, les pasteurs. C'est un texte qui parle particulièrement aux pasteurs. Puisqu'il est dit, alors aidez-moi, hein, il vous faudrait m'aider quand même. Hein. Vous ne m'aidez pas beaucoup quand même. Hein. Moi, je pars du principe où si vous ne m'aidez pas beaucoup, c'est que vous ne m'aimez pas beaucoup. Je vous mets un peu la pression. Hein. On va voir si vous m'aimez. Verset 45, quel est le serviteur, fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc la nourriture, ce n'est pas de l'alimentation, c'est du bien matériel. Lorsqu'un animateur à l'école du dimanche nourrit les enfants, est-ce qu'il peut le faire d'une manière toute très superficielle? Il peut le faire consciencieusement. Et si vous êtes animateur à l'école du dimanche, sachez que ce texte est pour vous aussi. Comment vous vous appliquez à nourrir les enfants? L'autre jour, il y a mon fils qui me disait que dans la classe où il était, il y avait 17 gosses, 17 enfants. Dans des petites pièces, ce n'est pas évident. Hein, 17, ils étaient. Eh bien, quand un animateur enseigne à 17 enfants, eh bien, il a une petite église, oui ou non? Et c'est peut-être même une grande responsabilité, parce que si moi je dis une bêtise, vous allez vous en rendre compte, et vous allez la zapper. Mais les enfants, si on dit une bêtise, ils peuvent la croire. Et Dieu s'adresse en particulier à ceux qui sont chargés de donner de la nourriture. C'est pour ça qu'il faut prier pour les pasteurs. La réunion, ça doit être un lieu où on est nourri, un endroit où on est restauré. Quand on vient à l'église, on vient pour donner, on vient pour arroser, on vient pour combattre, mais aussi on vient pour être nourri. Et Dieu est catégorique là-dessus. Il y a une catégorie de gens qui ne font pas leur travail correctement. Un pasteur, un ancien, un diacre, une diaconesse, un animateur de l'école du dimanche doit être interpellé par cet enseignement. Comment est-ce que je donne la nourriture aux gens qui me demandent de nourrir, bien sûr. La nourriture autant convenable, c'est-à-dire qu'il faut donner la nourriture qui corresponde. Alors il y a ceux qui seront heureux parce qu'ils l'auront fait. Ils l'auront fait avec sérieux, voilà. Il y a des récompenses également. Mais après il est parlé d'une catégorie de croyants, de pasteurs, de serviteurs, etc., qui n'auront pas fait leur travail. Qu'est-ce qu'il est parlé? Il est parlé de qui? Alors, vous avez travaillé? C'est quoi le contexte? Eh bien, voilà, vous ne m'aimez pas, je le sais. Écoutez, je vous avais dit de travailler. Je vous avais même dit que c'est vous qui prêcheriez. Alors, c'est quoi le contexte? Par contre, pas tous en même temps, parce que ça va faire un peu brouhaha. Hein. Alors, c'est quoi le contexte? Non, ça c'est l'enseignement général de tous les textes, des sept textes. Le contexte, c'est l'hypocrisie. Vous n'avez pas vu? Le méchant serviteur, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Voilà, le contexte, c'est l'hypocrisie. Eh oui, dans la maison du Seigneur, est-ce qu'il peut y avoir de l'hypocrisie? Eh oui, on peut être hypocrite. On peut jouer un rôle. Jésus a été très, très, très sévère avec l'hypocrisie. Vous avez vu combien Jésus a été très condescendant, très patient avec les pécheurs. Mais il n'a pas supporté l'hypocrisie. Vous avez remarqué comment il s'est adressé aux femmes adultères, à certains pécheurs, etc. On voit cette patience. Mais avec les hypocrites, il y a un texte qui me vient à l'esprit, je crois que c'est dans Luc 11. Jésus a été très sévère. Pourquoi? Parce que c'est révélateur. C'est révélateur. Regardez dans Luc au chapitre 11, Jésus est dans une synagogue. Donc il est chez un pasteur, chez un pasteur, et il fait quelque chose. Vous voyez, regardez, Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Donc il avait été invité, ou il s'était invité, j'en sais rien. Et il guérit une femme. Et les gens sont choqués parce qu'il a guéri une femme le samedi, le jour du sabbat. Et regardez ce que Jésus leur dit au verset 15. Qu'est-ce qu'il leur dit? Et n'oubliez pas, il a été invité dans une église et il traite les pasteurs qui sont là d'hypocrites. Ça nous montre que c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas, l'hypocrisie. Dans la maison du Seigneur, on doit être sincère, on doit être vrai. Et l'hypocrisie fera que beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts. Dans la maison du Seigneur, on doit être vrai. Vous êtes d'accord? C'est terrible les gens qui jouent un rôle. Les gens qui à la maison ont un comportement et qui à l'église en ont un autre. Et là, le Seigneur parle de ces gens qui sont hypocrites. Dieu nous demande d'être vrai. C'est écrit où ça tient? Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Aidez-moi. Et vous ne m'aidez pas. Hein. Philippiens, chapitre 4. Et je ne les ai pas notés, c'est de tête, croyez-moi. Galates, Éphésiens, Philippiens. Ce sont des versets que vous devez apprendre par cœur. Je dis vous devez, oui, parce que ce sont des versets qui feront que nous vivrons ce que nous sommes en train de prêcher, à savoir de veiller. C'est important, mes frères et sœurs. Pourquoi il y a tant d'avertissements? Pourquoi il y a tant d'exhortations? Pourquoi il y a tant de paroles sévères de la part du Seigneur? Eh bien, parce que les gens ne le font pas. Regardez Philippiens. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Il y a le fait de ne pas s'inquiéter et que Dieu sera, que la paix de Dieu sera avec nous. Est-ce que vous aimez la paix de Dieu? Est-ce que c'est bien la paix? C'est bien la paix? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de la perdre? Oui, moi aussi, on la perd. C'est pour ça qu'il faut la poursuivre, la rechercher. Vous remarquerez que le fait de prier, de se décharger, donne la paix. Et Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse votre intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. » Mais regardez le verset 8, 9 et 10. Au reste, donc, ce sont des conjonctions, ça, qui nous... En plus, c'est-à-dire, il faut le compléter. Le fait d'avoir la paix, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Au reste, virgule, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui est vertueux, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et là, ce n'est pas la paix de Dieu. C'est écrit quoi? Et la paix de Dieu sera avec vous. Il faut faire la différence entre la paix de Dieu, béni soit son nom, mais on peut vite la perdre. Si nos pensées ne sont pas accaparées par ce qui est vrai, eh bien le Dieu de paix ne sera pas avec nous. C'est la raison qui fait que beaucoup de chrétiens, quand ils prient, ah, oh, ils sont contents, oh, monsieur Gou, je prie, j'ai la paix, j'ai fait mon culte, oh, pendant une heure, ils ont la paix, et 10 minutes après, ils n'ont plus la paix. Pourquoi? Parce que leurs pensées sont parties dans n'importe quelle direction et le Dieu de paix n'est plus avec eux. Vous avez vu la différence? La paix de Dieu sera avec vous et le Dieu de paix sera avec vous. Alors il faut les deux. Il faut que Dieu soit avec nous et il faut entretenir cette paix. Comment? Que tout ce qui est vrai. Et quand on s'est loupé, bien loupé, vous vous rappelez David? Dans le psaume 51, il dit « Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur ». Est-ce que c'est important pour vous? C'est ça qu'on a besoin. Seigneur, je veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Il y a trop de gens qui partent dans n'importe quelle pensée. Vous n'avez pas des mauvaises... Est-ce que ça vous arrive d'avoir de mauvaises pensées? Souvent? Allez, allez, répondez-moi. Est-ce que ça vous arrive d'avoir de mauvaises pensées? Ben, bien sûr. C'est comme la tentation, c'est exactement comme la tentation. La tentation, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave la tentation, puisqu'il est dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le problème, c'est pas la tentation. Le problème, c'est la convoitise. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui regarde une femme, pour là, convoité. Il a déjà commis avec elle l'adultère. Il la regarde, on n'est plus dans la tentation. On est dans la convoitise. C'est-à-dire que le gars, il sait ce qu'il veut. Et il va chercher à avoir ce qu'il veut. Ça, c'est grave. Mais la tentation, les mauvaises pensées, on doit les amener captives. C'est pour ça que les gens qui sont hypocrites, ils le sont devenus. Parce qu'on peut l'être tous. Est-ce qu'on peut l'être tous hypocrites? Ben oui. On peut tous jouer un rôle. À un moment donné, on doit dire non, je refuse de jouer un rôle. Je veux être vrai. Quand David a fait la comédie pendant un an, il a fallu qu'il soit confronté à une parabole de Nathan pour qu'il dise oui, je suis un pécheur. Et ce soir-là, il va prier et il va dire voilà. Lisez le psaume 51, et on va y aller d'ailleurs. Lisons-le. Dans le psaume 51, regardez comment on devient vrai. Parce qu'il a fait la comédie pendant un an, David. Pendant un an. Quand il a trompé, quand il a fait tuer Uri, il a fait la comédie devant tout le monde. Mais quand il a été confronté avec la parole de Dieu à la vérité, eh bien il s'est ressaisi. C'est ça qui faisait de lui un homme vrai. Psaume 51, bon, si lui il a fait la comédie, ça peut nous arriver aussi, mais il faut réagir. Dès que la parole de Dieu nous touche, on devrait dire « Ah mais Seigneur, tu m'as parlé, il y en a assez de cette comédie, il y a des chrétiens qui mentent. » Bon, mais si vous mentez une fois, moi, je sais pas, moi, si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais quelqu'un qui pratique le mensonge,
ça va être quoi le but, le résultat? Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Ceux qui pratiquent le mensonge, ils sont? J'attends. Qu'est-ce qui est dit dans, où c'est écrit d'ailleurs? Celui qui pratique le mensonge, qu'est-ce qui est dit juste avant? Non, mais vous êtes dans quelle église? Qui c'est votre pasteur? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible sur ceux qui pratiquent le mensonge? Voilà, c'est bien, jeune pasteur. Leur part sera dans les temps de feu. Vous comprenez bien que l'hypocrisie, c'est un truc qui ne plaît pas du tout à Dieu. Et David, dans le psaume 51, regardez, « Oh Dieu, aie pitié de moi », etc. Puis après, on voit, regardez, à partir du verset 6, « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Voyez, verset 7, « Mais tu veux que la vérité, voilà, c'est ça, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope, lave-moi. » Verset 11, « Détourne ton regard de mes péchés, etc., etc. » Il y a une honnêteté. Et être vrai, c'est quand on prie, c'est pas faire des prières toutes faites, c'est dire, Seigneur, tu vois, ça va pas. Je ne suis pas le gars que je devrais être à mon travail. Eh bien, donne-moi d'avoir un bon témoignage. Être vrai, les hypocrites, ça, c'est triste à dire, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi. Jésus parle des pasteurs hypocrites, des serviteurs hypocrites. Ils étaient chargés de nourrir une église. Ils étaient chargés de nourrir des enfants, un groupe de jeunes. Toutes les fois où on apporte la parole de Dieu à un groupe, c'est pour les pasteurs cette parabole, cet enseignement. Et Jésus dit, voilà, eh bien, les hypocrites, eh bien, leur part, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et le jour, vous croyez que tous les pasteurs seront enlevés? Franchement, est-ce qu'on est naïf à ce point? Vous croyez que tous les pasteurs seront enlevés? C'est pour vous. Est-ce que parce que je prêche, ça fait obligatoirement de moi un homme qui obéit à Dieu? Eh non. Il y a déjà, ils s'imaginent, tiens, oh, celui-là il fait ci, celui-là il joue bien de la guitare, il prêche bien, oh, quel bon chrétien. Non, c'est pas, il n'est pas dit qu'on reconnaîtra les pasteurs aux prédications. Les arbres, on les reconnaît aux fruits. Et donc, c'est important que ces textes. Parce que cette parole, moi c'est, je vous assure, c'est une des paroles du Nouveau Testament qui m'a le plus secoué. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est ce qui va arriver quelques secondes après l'enlèvement de l'Église, parce que les gens n'auront pas été sérieux avec le fait de veiller. Qu'est-ce que Dieu dit? Veille à ne pas être un hypocrite. Sois vrai. Mets-toi à genoux. Est-ce que Dieu peut secourir n'importe quel pécheur? Est-ce que vous avez vu dans la Bible des cas où il y a des gens qui étaient vraiment au fond, qui ont vraiment été humbles devant Dieu et que Dieu a béni? Est-ce qu'il y en a? Manassé. Le roi Manassé, c'est moi, je l'aurais laissé en prison, je peux vous dire, jusqu'à ce qu'il meure. Eh bien, Dieu l'a sorti. Parce qu'il s'est profondément humilié, vraiment humilié. C'est dans, où c'est où ça? Quel chapitre c'est? De Chroniques 33. Mais lisez ce chapitre et vous verrez combien, quand on est vrai, Dieu bénit. Vous avez envie d'être béni? Ben bien sûr, ne crachons pas dans la soupe. Et puis Dieu veut nous bénir, c'est sa volonté de bénir. Si on est là, une des raisons pour laquelle les chrétiens se rassemblent, c'est parce que Dieu veut les bénir. Eh bien, Dieu bénit sur cette base d'être vrai. Donc, faisons attention à ne pas devenir des hypocrites. Et si Dieu nous a confié quelque chose, faisons-le dans la vérité. Dieu m'a confié telle responsabilité, moi c'est de prêcher la parole, eh bien je vais le faire comme il faut. Comme il faut. Et si quelqu'un a le péché, je ne vais pas magouiller pour qu'il reste, pour avoir une dîme de plus. Non, quelqu'un a le péché, mais il faut le dire. Si tu pèches, tu vas aller en enfer. Il faut le dire, il ne faut pas le dire. Ben oui, il faut le dire. C'est ça l'honnêteté. Le sixième texte, c'est dans Matthieu 25, verset 40 à verset 30. Vous l'aviez médité, au fait, cette parabole? Bon, c'est bien. Donc vous pouvez répondre. Matthieu 25, verset 14, en vérité, au verset 30. Il y a la fameuse parabole des talents, où Dieu confie des talents. Vous avez tous un talent. Combien vous en avez de talents? Tiens donc, combien vous avez de talents? Est-ce que vous savez combien de talents vous avez? Je pense qu'on en a tous plusieurs. Le fait d'avoir une bouche déjà, est-ce que ce n'est pas un talent? Est-ce que ce n'est pas une grâce de pouvoir utiliser sa voix pour prier. Est-ce que la voix, c'est déjà un talent? Vous savez, j'ai un pasteur, je connais un pasteur qui a été dans une église à Paris. C'était que des muets. C'est une association de chrétiens. Alors, il y a un pasteur qui prêche, mais il y a une personne à côté qui... Et il loue Dieu. Et il a pu discuter avec ces personnes, hein, ce pasteur. Et les gens, ils aimeraient pouvoir prier à haute voix. Ils aimeraient... Franchement, imaginez-vous un gars qui est muet de naissance. Et tout d'un coup, Dieu le guérit. Vous croyez qu'il va rester, il va rester muet? Ou il va exploser de louanges? Et répondez-moi. Ne soyez pas muet. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez muet? Tout d'un coup, vous retrouvez l'usage de la parole. Mais vous allez crier de joie. Oui ou non? C'est un talent. Et je crois que souvent nous sommes négligents. Nous ne nous rendons pas compte à quel point certaines choses qui paraissent acquises, d'avoir des bras, des jambes, de pouvoir marcher. Vous savez, moi, quand j'ai fait mon AVC, j'étais paralysé, je ne pouvais pas parler. Pendant 3 mois, j'y voyais presque rien. Et bien, déjà, j'étais reconnaissant, mais moi, je trouve que c'est une grâce de Dieu d'avoir des bras, des jambes, d'y voir. Oui ou non? Et oui, on a plusieurs talents. On a plusieurs talents. Et on doit les faire valoir. Celui qui avait reçu qu'un talent, il n'avait reçu qu'un. Ça veut dire que Dieu n'est pas exigeant. Mais il n'en avait reçu qu'un. Alors en plus, il a commencé à se plaindre. Verset 25, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Vous voyez, comme les gens avec Dieu. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ce n'est qu'une parabole. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Donc là, vous avez le contexte. Le contexte de la parabole, de ce sixième pleur et grincement de dents, c'est la paresse et la méchanceté et l'inutilité, au verset 30. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Vous voyez, vous percevez quoi dans cette remarque de Jésus? Qu'est-ce que vous percevez? Voilà, il n'a même pas fait le minimum. Il y a le minimum à faire. Il aurait pu faire un petit peu, aller à la banque et placer l'argent pour le faire valoir. Voilà ce qu'on doit retenir. Mais est-ce que je fais au moins le minimum? Bien sûr que nous, les pasteurs ou les gens à côté, peuvent vous mettre la pression et tu devrais en faire davantage, tu devrais faire plus. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça que ça marche. Mais au moins... Tiens cette voix, ce soir Seigneur tu me montres que tu... C'est vrai, tu m'as donné une voix. Est-ce que je l'utilise pour prier, pour louer? Est-ce que j'utilise ma voix le matin quand je me lève, dis Seigneur que ton nom soit béni. Est-ce que c'est bien de louer Dieu? Ben oui, là. En plus c'est clair dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit en vérité, c'est-à-dire des gens qui obéissent. Parce que dans les églises, il faut adorer Dieu. Alors les gens, ils adorent. Levez les mains, adorez Dieu, louez Dieu. Mais ce n'est pas ça l'adoration en esprit en vérité. L'adoration en esprit en vérité, c'est une adoration qui est apportée à Dieu dans l'obéissance. Parce que j'obéis à Dieu, du matin au soir et du soir au matin, je suis un adorateur en esprit et en vérité. Mais la parabole des talents, oui, il y a un minimum. Un homme qui aurait dû porter de fruits, c'est ça la parabole, et qui n'en porte pas. Et ça, dans l'Église, il y en a plein. Des gens qui devraient porter du fruit et qui n'en portent pas. Je vous pose une question. Répondez-vous à vous, répondez au Seigneur surtout. C'est une question sérieuse. Est-ce que pour vous, c'est important de porter du fruit? C'est une question solennelle. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est sérieux. Est-ce que je porte du fruit? Des fois, il faut du temps. Moi, j'ai planté un noyer dans ma maison que j'ai à Groyer dans le Tarn. Et la sixième année, pas de noix. J'ai failli l'arracher l'arbre. Alors, comme mon père est scientant, je dis, papa, écoute, j'ai planté un noyer. Ça fait 6 ans, il n'y a pas une noix. Je vais l'arracher, il me dit, non, malheureux. Les noyers, ils ne portent des noix qu'à partir de la 7e année. Et maintenant, il y a des noix, je vous dis. Alors, il faut accepter le fait que ça puisse prendre un peu de temps. Oui, d'accord. Mais il faut, il y a un moment quand même, il faut porter du fruit. Alors ne soyons pas trop durs avec les gens, mais est-ce que c'est important pour vous de porter du fruit? Dans l'église du Seigneur, moi je pense que Dieu compte sur nous. On a un cantique, un vieux cantique, on le chante rarement. Dieu peut-il compter sur nous? C'est un très beau cantique qu'on devrait chanter régulièrement. Mais c'est triste, on comptait sur ce frère, on comptait sur cette sœur, Dieu nous a placés dans l'église. On comptait sur lui, pour la prière, pour l'heure de la prière, une heure de prière dans une semaine à l'église. On n'est pas dans le minimum? C'est le maximum ou le minimum, une heure de prière? Répondez-moi. Une heure de prière. On comptait sur lui pour combattre le bon combat de la foi. Est-ce que c'est bien tout à l'heure plusieurs qu'on ait prié pour les fils prodigues qui reviennent? Est-ce que c'est la volonté de Dieu de prier pour les fils prodigues? C'est pas le minimum. C'est le minimum. On comptait sur lui pour l'évangélisation dimanche, il y aura 6 baptêmes. Est-ce que c'est pas important d'être là pour accueillir les gens? Est-ce que c'est important, nous avons une nouvelle sœur qui est arrivée ce soir dans l'assemblée, qui s'appelle Clara. Vous avez été bien accueillie? Mais est-ce que c'est pas important d'accueillir quelqu'un quand il arrive? Est-ce que c'est pas le minimum d'accueillir une sœur, d'accueillir un frère? C'est pas le minimum? Ah, moi je suis crevé, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je rentre à la maison. Ah oui? Et si c'était le talent que Dieu t'avait confié? Non, c'est le boulot du pasteur, ça, d'accueillir les gens. Moi, j'ai pas lu ça dans la Bible. Mais je pense que ces choses ont été écrites pour que nous puissions veiller. Pas veiller d'une manière abstraite, intellectuelle, et dire, ah, c'est vachement intéressant ces trucs-là. Ah, les 7 textes où Jésus parle des pleurs et des grincements dedans, ouais, c'est marrant, c'est bien. Ah. Est-ce que je comprends que Dieu veut que je ne sois pas un paresseux? Parce que le contexte, c'est la paresse. Le contexte, c'est au verset 30. Et le serviteur inutile. Ça fait frémir, ça. Écoutez-moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il y a un paradoxe au verset 28. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents. Au ciel, on va avoir de ces surprises, je vous dis pas au ciel. Mais comme on sera parfait, tout sera juste. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est Jésus qui parle. Hein? Et le serviteur, inutile. Alors, ça faut, ah, mais on n'est pas sauvé par les œuvres. Qu'est-ce que ça? Parce qu'il y a des gens qui ont interprété ça en disant que c'était les œuvres qui sauvaient. Non, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Mais quand on est sauvé et qu'on est en communion avec Dieu, on ne peut pas ne pas faire d'œuvres. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Quand on est sauvé, on fait des œuvres. Oui ou non? On le fait. On le fait de bon cœur. On fait quelque chose. Je sais jouer du piano. Tiens, et bien, hop, je joue du piano. Je sers le Seigneur. Moi, j'ai vu des gens ici qui sont venus 3, 4, 5 ans, la dernière semaine, ils m'ont dit, vous savez, monsieur Hugo, je joue du violon. Ah, mais c'est temps de le dire. Au bout de 4 ou 5 ans, les étudiants, ah, mais j'osais pas le dire, vous savez, j'osais pas vous le dire. Eh bien, vous vous êtes privé de servir Dieu pendant 4 ou 5 ans. Alors, la timidité, moi, je veux bien, mais je pense que la foi est capable de supplanter la timidité. On a tous nos caractères, etc., etc. Moi, je veux bien. Je veux bien qu'on soit plus extraverti que l'autre, etc., au moins. Mais je crois qu'à un moment donné, l'obéissance prend le dessus. On ne peut pas chanter des cantiques comme on a chanté. Je suis plus que vainqueur. Parce que chanter plus que vainqueur et rester continuellement timide, ça commence à avoir un problème. Seigneur, je ne veux pas être inutile. Parce que ceux qui sont inutiles, ils sont où? Ça fait peur quand même, non? Ça fait peur l'inutilité. J'espère que ça vous remet en question. Moi je le sais, il y a des gens, même ici, dans cette église, ils sont inutiles. Ils font rien. Et ils justifient comme le bonhomme. Mais oui, mais tu sais, moi je peux pas. Alors moi je vais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben oui, mais par contre, quand vous passerez devant Dieu, ce ne sera pas Gérard Gault, ce ne sera pas Jonathan D'Agostino, un frère ou une sœur de l'église. Quand vous passerez devant Dieu, ça n'aura pas du tout la même connotation. Vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Et vous allez avoir à cœur quelque chose. Ce n'est pas possible. Je parlais de l'accueil. Dimanche, c'est arrivé quand il y a 5 ou 6 baptêmes. 5 ou 6 baptêmes qui est 5, 10, 15, 20, 30 nouveaux. C'est arrivé. Est-ce que moi, je peux les accueillir tous les 30? Est-ce que, par exemple, bien sûr que les jeunes, tiens, allez, il peut y avoir 30 nouveaux dimanches, allez, on va préparer 30 Bibles avec 30 prospectus pour les leur donner. Est-ce qu'on peut offrir 30 Bibles? Est-ce que l'Église peut acheter 30 Bibles pour 30 nouveaux dimanches? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, bien sûr, c'est fait, on le fait tout le temps. Mais tiens, mais c'est peut-être que c'est là que je dois commencer. Oui, tu m'as donné une voix, j'ai compris. Mais peut-être que je peux aller accueillir quelqu'un. Peut-être il y a un musulman qui va venir pour la première fois de sa vie. Est-ce que ça vaut la peine de l'accueillir? Oui ou non? Ou alors moi non, je préfère me retrouver avec les jeunes, on va discuter, on va blaguer. C'est ça. Seigneur, je ne veux pas être un serviteur inutile. Parce que quand les trompettes vont sonner, il y a des gens qui pensent qu'ils auront le temps de se préparer à la dernière minute. Il y a plein de gens qui le pensent. Les trompettes, quand elles vont sonner, ça sera trop tard. Et il y a plein de chrétiens qui auront entendu ça et qui auraient dû réagir et dire, mais c'est clair, il faut absolument déjà, mais peut-être je vais faire le point avec Jonathan, peut-être avec Madame Penn, si vous êtes une sœur. Il y a des gens ici qui peuvent vous aider. Je vois Madame Fabio, Madame Limonde, Madame Esparcelle, il y a des gens qui ont des années d'expérience. Allez les voir. Et dire, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais faire dans l'église? Mais peut-être c'est le ménage. Est-ce que c'est bien d'avoir une église toujours propre? Il y a un gars qui entretient la climatisation. Est-ce que c'est bien qu'on ait une salle toujours bien climatisée, chauffée? Est-ce que vous appréciez le chauffage l'hiver? Moi, je trouve que c'est bien. En plus, le gars, il le fait gratuitement. On le payerait, c'est son boulot. Mais non, il le fait gratuitement. Est-ce que c'est bien que chacun fasse sa part? On comptait sur lui. On comptait sur lui, sur la prière, pour entourer les nouveaux. Il n'a pas fait ça. Mes frères et sœurs, à l'enlèvement, il y aura beaucoup de désarroi. On parle comme ça, comme je vous l'ai dit dimanche, il y a beaucoup de paroles, c'est devenu des clichés, on est habitué, vous voyez, comme qu'on a chanté « Je suis plus que vainqueur ». C'est comment? Vous pouvez le remettre le premier cantique, s'il vous plaît? On a chanté, vous voyez, c'est beau. Vous l'avez chanté le premier cantique? Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus complète sa délivrance. Hein, par la foi, nous marcherons. Me rendra plus que vainqueur. Pas vainqueur. Vainqueur, ça ne va pas. Plus que vainqueur. C'est écrit dans la Bible qu'on peut être plus que vainqueur? Non, mais franchement, ça fait rire presque. On chante des trucs de fou. Me rendra plus que vainqueur. Et on reste dans cette inutilité, dans cette paresse, dans cette hypocrisie. Non. Et ça dépend. C'est un acte de foi. Je veux réagir. Moi, ça, je ne veux pas le chanter avec ma tête. Je veux le vivre. Tout à l'heure, je vais rentrer à la maison. Voilà, je vais prendre ma tisane, je vais prendre ma douche, je vais me coucher. Mais je veux être dans cet état d'esprit. Et je veux, tiens, dimanche, je vais commencer à accueillir les gens. Il n'y a rien de pire que d'être inutile. Quand vous voyez ces textes, et je répète, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui parle. Et le serviteur inutile, paresseux, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Alors j'espère que vous n'êtes pas là juste pour dire, bien, on aime bien écouter la parole de Dieu, c'est intéressant. Non, pas intéressant. C'est vital, la parole de Dieu. C'est pas pour la tête, c'est pour le cœur. La parole de Dieu, c'est pour mon âme. Il restaure mon âme. C'est pas là pour avoir des cerveaux à 4 étages. Non, Seigneur, je veux que ça soit dans mon cœur. Je veux être utile dans l'Église. Je veux être utile. Eh bien, j'avais commencé par la prière. Tu m'as donné une voix, eh bien, je vais apprendre à prier. C'est peut-être là que Dieu vous attend. Oui ou non? Oui? Vous croyez que ça plairait à Dieu si mardi prochain, tous ceux qui sont là déjà, eh bien, je vais venir, je vais prier. Je vais dire amen aux frères et sœurs, mais aussi je vais prier. Tiens, je vais prier pour mon oncle, qui peut être en train de mourir d'un cancer. Je vais prier pour lui, pour le salut de son âme. Et on va tous dire amen. Est-ce que vous croyez que ça plaît à Dieu, ça? Ben oui, ma maison est une maison de prière. Eh bien, je vais commencer à être utile. Soyez utile. Ne soyez pas inutile. Ne soyez pas paresseux. Il y a des gens mais c'est un truc de fou. Ils sont capables, dans le monde, de faire leur footing, de faire du sport, de faire de l'haltérophilie. Ils sont capables de faire des trucs de fou. Dans l'église, incapables de lever la voix pour prier. Est-ce que j'exagère, en fait? C'est quand même important. C'est signé Jésus. C'est Jésus qui parle. C'est le seul qui parle de ces choses. Alors Seigneur, je vais commencer à le faire. Ne vous sentez pas accablé, culpabilisé. Si c'est une bonne culpabilité qui vous pousse à la repentance, c'est bien. Mais si c'est le jeu du diable, ça ne sert à rien. Mais peut-être que vous dites, mais c'est quand même, c'est vrai, Dieu me parle au travers de M. Gau, c'est clair, je suis inutile. Alors je vais me ressaisir. Je vais me ressaisir. Oui, je vais participer à la prière. Oui, je vais faire ma voix, mon Dieu, dire que je pourrais être muet. Moi, pendant un jour ou deux, je ne pouvais pas parler. Bon, je n'étais pas trop inquiet. Mais quelle grâce de pouvoir parler. C'est pas une bénédiction ? Luc chapitre 13, le dernier texte. Pareil sur le jour où Jésus va revenir, quand la porte va se fermer. Parce que vous savez, ce soir, on peut dire merci Seigneur, la porte est ouverte. Mais un jour, ça ne sera plus possible. Alors, ça fait 2000 ans qu'on le dit, ça fait que les gens s'habituent. Là aussi, ça fait partie des clichés. Mais croyez-moi, la porte va se fermer. Luc chapitre 13, verset 22. Alors, normalement, il faudrait lire jusqu'au verset 34. On va lire ce qui nous intéresse à partir du verset 24. Le Seigneur, je vous rappelle qu'il ne force personne. Il nous demande de nous efforcer. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs. Verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Est-ce que Jésus pourrait nous forcer ? Est-ce que Jésus pourrait nous forcer ? On le sait dans les églises, c'est limite des fois entre l'église et la secte. On a vite fait de mettre la pression sur les gens. Allez, venez prier, il vous faut venir prier. Alors c'est quoi ça ? C'est bon ou c'est pas bon ? C'est limite. Parce qu'on force la personne à le faire. De toute façon, ça c'est pas bon parce que ça tiendra pas. Ça tient pas. La personne va le faire pour faire plaisir. Mais le dernier texte qui nous est parlé des pleurs et des grincements dedans commence avec une invitation. Efforcez-vous, c'est à vous de le faire. Nous, on peut vous supplier, c'est biblique, ce verset là, soyez réconciliés avec Dieu, c'est précédé de cette locution, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, c'est important d'être en communion avec Dieu. Ça peut s'arrêter à la supplication, mais c'est à nous de faire des efforts. Efforcez-vous, et s'il y en a bien un qui aurait pu nous forcer, c'est bien Jésus, dans un contexte aussi sévère. Efforce-toi d'entrer. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison, donc le Seigneur, se sera levé et aura fermé la porte, c'est une prophétie, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Ils ont mangé avec Jésus. Et il répondra « Je vous le dis, « Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. » Amen, même fait, ça fait, on pourrait dire pitié presque. Amen au texte. Mais c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Et il y a des gens qui n'acceptent pas la porte étroite. Le contexte, c'est la porte étroite. C'est ce chemin étroit dans lequel Dieu veut que nous marchions. Nous, on préfère le chemin large et spacieux. Moi, je veux bien être chrétien, mais je fais ce que je veux. Je vais à l'église si je veux. Moi, je suis libre, on ne me mettra pas la pression. Je ne vais pas devenir un légaliste, etc., etc. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas obéir. Et ils utilisent tout un tas de trucs pour vivre dans cette permissivité, dans cette fausse liberté. La porte, elle est étroite. Le chemin, il est étroit. Ça commence par l'humilité et ça doit maintenir dans l'humilité. Et dans les églises, on ne prêche plus la porte étroite. On ne prêche plus sur le chemin étroit. On dit acceptez l'évangile, acceptez Jésus. Et voilà, non, c'est pas ça. Il faut accepter l'évangile et marcher sur un chemin de sainteté, d'humilité, d'obéissance, de repentance, de conversion, d'abnégation. Le problème dans les églises aujourd'hui, c'est que les gens se sont un petit peu repentis, mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pour ça qu'il y a tant de drames dans les églises, tant de difficultés dans les églises, etc. Parce qu'il n'y a pas cette nouvelle naissance. Dans le royaume de Dieu, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Le chemin, il est étroit. Et dans l'église de la fin des temps, on pourra tout faire. Tout faire. On ne parlera plus de repentance, on ne parlera plus de sainteté, on ne parlera plus de conversion, on parlera d'ambiance, on parlera de divertissement, voilà. Là, et Jésus dit que ces gens-là, ils vont se retrouver dehors. Beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. C'est un truc de fou. Ça fait 2000 ans qu'on prêche l'évangile. Entrez, entrez. les gens ne veulent pas rentrer, et quand la porte sera fermée, les gens ils voudront rentrer. On est compliqué. En fait, je sais qu'en France, on est compliqué. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que le... Non, mais on est un peu quand même difficile. La porte est fermée, ouverte. Aujourd'hui, 16 juin 2015, la porte, elle est ouverte ou elle n'est pas ouverte? Elle est ouverte. Ce soir, n'importe qui, vous pouvez rentrer. Dire, j'entre dans le royaume, je me repens, je me convertis, je passe, je reste sur ce chemin, plein de lumière. Voilà, je marche avec Dieu. La porte est ouverte. C'est comme quand Noé a fini a terminé son arche. Combien de temps il a passé entre la porte fermée et la pluie? Quelqu'un peut me le dire? Donc, 7 jours. Alors, il devait rire. Mais quand Dieu a fermé la porte, c'était fini. Et laissez-moi vous dire, c'est pas une question de vous faire peur, ça ne marche pas, ça marche pas du tout. Mais c'est la vérité. Un jour, la porte, elle va se fermer. Et si vous n'êtes pas converti, vous serez dehors. Et vous allez pleurer. Et vous allez dire, mais pourquoi le 16 juin, ce mardi soir, je ne suis pas rentré. En tous les cas, si vous ne rentrez pas, ce ne sera pas ma faute. Moi, je veux vous donner du pain, du vrai pain, du bon pain. Si vous n'entrez pas dans le royaume, Dieu ne me le reprochera pas. Parce que je peux vous dire qu'en enfer, il y a des pasteurs qui vont charger. Parce qu'on va leur dire, il y a plein de gens, mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit? On était dans ton église, tu ne nous as pas dit qu'il fallait se repentir. Tu ne nous as pas dit qu'un jour la porte serait fermée. Mais moi, je vous le dis. Veillez, c'est ça. Est-ce que vous êtes dans le royaume? Voilà. Est-ce que vous pouvez dire ce soir, oui, je suis sauvé. Je suis entré dans le royaume. Il ne faut pas faire comme des pasteurs. Allez, baptise-toi, tu rentreras dans le royaume. Il faut que je baptise. Pourquoi tu t'es fait baptiser? Eh bien, je me suis fait baptiser pour faire plaisir au pasteur. Ah, c'est sûr que là, ça fait pitié. On se fait baptiser parce qu'on veut être sauvé. On se fait baptiser parce qu'on s'est repenti, parce qu'on a donné son cœur à Jésus-Christ, parce qu'on sait que la porte va se fermer. Et je veux m'engager dimanche, il y a 6 baptêmes, mais j'espère que vous serez là pour accueillir, pour participer à ce combat. Dieu compte sur vous pour accueillir les gens. Moi, je me souviens un jour, un service de baptême, il n'y avait que la moitié de l'église. Moi, ça m'avait brisé le cœur. Quand même, c'est gagner des âmes. Est-ce que c'est facile de gagner des âmes? C'est pas facile de gagner une âme. Et c'est la preuve que les gens sont devenus paresseux, hypocrites, inutiles. Moi, il me semble que c'est une victoire de baptiser des gens. Est-ce que ce n'est pas une victoire? Non? Et on devrait se dire, mais moi, je serai là et je prierai pendant que M. Go prêchera. Parce que là, c'est de l'édification. Mais mardi, ça sera, dimanche, ça sera de l'évangélisation. Et ces gens, on veut qu'ils soient sauvés. Eh bien, Dieu compte sur vous pour que pendant que je prêche, vous priez, pas en haute voix, mais dans votre cœur, que vous disiez, Seigneur, sauve ces gens qui sont là. Parce que nous, on est là tous les dimanches, on est là tous les mardis. Mais il y a des gens, ils viennent une fois dans leur vie. Une fois, écouter l'évangile. Ça ne vaut pas la peine de penser à eux? La seule chose qu'ils connaîtront de l'évangile, ça sera ce qu'ils entendront dimanche après-midi. Il vaut mieux que ce soit comme il faut. Alors Seigneur, moi je ne veux pas être un paresseux. Je ne veux pas être de ceux qui vont se retrouver dehors. Parce qu'il y en aura beaucoup. C'est écrit, il n'est pas dit 3 ou 4. Il faut bien lire les mots, les adjectifs, les adverbes. Vous voyez? Quand le maire, on termine avec ça, verset 24. Car je vous le dis... 3 ou 4 chercheront l'entrée. C'est ça que vous avez dans votre Bible? Qu'est-ce que vous avez? Vous regarderez ce soir dans le dictionnaire l'adverbe « beaucoup », ce que ça signifie. Si ça signifie un petit nombre ou un grand nombre. Et vous avez bien compris quelle catégorie c'est. Beaucoup de chrétiens se retrouveront dehors. Eh ouais, parce qu'ils n'auront pas voulu de ce chemin étroit. Et pourtant ce chemin, ce n'est pas un chemin béni. De marcher avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui pourrait se lever et dire « Ah non, moi quand je suis au centre de ce chemin, je suis malheureux. » Il y a quelqu'un? Vous savez très bien que quand on est dans ce chemin étroit, plein de lumière, de grâce et de paix, on ne peut pas être plus heureux. C'est le diable qui nous promène. Mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps difficiles. La porte va se fermer. Alors j'espère que vous tous qui êtes là ce soir, vous pouvez tous dire « Mais moi, elle peut se fermer la porte, c'est pas un problème. Moi, je suis dedans. » Je suis dedans. On va fermer les yeux quelques instants. Je ne sais pas, je ne vous connais pas tous bien, mais Dieu vous connaît. Et cette réunion, si c'est une réunion d'enseignement, c'est aussi une réunion d'évangélisation. On va finir en se recueillant. Dimanche, si bien-aimés vont témoigner de leur entrée dans le royaume. Mais vous qui êtes ici ce soir, c'est quoi donner la nourriture au temps convenable? Le temps convenable, c'est pas maintenant, là, dans les quelques minutes qui suivent. Et peut-être même que vous avez été baptisé, mais que vous n'êtes pas converti. C'est pas le baptême qui va vous sauver, c'est la conversion qui vous sauve. Et moi, bien sûr, je ne peux pas ne pas penser à ceux qui, parmi nous, ne sont pas encore sauvés. Vous vous rendez compte si on partait là? Vous vérifieriez que ce que Jésus a dit est vrai. Beaucoup de gens ils pensent que ce que Jésus a dit, oui, il a dit, c'est vrai. Mais comme tous les gens, les politiciens, les ministres, tout le monde ment. Mais Jésus, il ment pas. Il est la vérité. Beaucoup chercheront à rentrer. J'espère que vous n'êtes pas dans ce cadre-là. J'espère que vous êtes dans le cadre de ceux qui vont se réjouir aux noces de l'agneau. Oui, la prédication, ce n'est pas pour la tête, c'est pour le cœur. Et je veux terminer en priant pour ceux qui, au milieu de nous, pourraient se retrouver dans cette situation de paresse, d'inutilité, ceux qui n'utilisent pas leur voix, le premier des talents, parce que je vous assure, c'est un bienfait, la voix. Vraiment un bienfait. Oui, Dieu vous attend à l'heure de la prière. Mon frère, ma sœur, je t'assure, écoute cette parole. Dieu t'attend à l'heure de la prière. Rappelle-toi, il y a des années en arrière, tu priais. Tu priais pour les perdus. Maintenant, Dieu t'attend. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit dans son cœur, Seigneur, oui, je veux être un arbre utile. Même si je suis comme le noyer ou le châtaignier, ça met du temps. Mais Seigneur, je vais emporter du fruit. Prions quelques instants. Tu nous as laissé ta parole, Seigneur, et nous t'en sommes reconnaissants. Tu as même dit que le ciel passerait, que la terre passerait, mais que ta parole demeurerait. Merci. Cela nous prouve que ta parole est plus ferme que le monde entier. Tu savais qui viendrait ce soir dans ce lieu. Tu vois ceux qui parmi nous ne sont pas encore rentrés ou qui sont rentrés et qui sont sortis. Tous ceux qui sont ressortis à cause de leur paresse, de leur inutilité, de leur méchanceté ou de leur hypocrisie. Seigneur, nous voulons être dedans. Avoir la joie d'être revêtus de fin lin, pur, éclatant, et de vivre les noces de l'agneau quand tu vas revenir. Nous pensons à ces gens du temps de Noé qui ont dû être effrayés quand ils ont vu toute cette eau arriver. Seigneur, nous voyons bien que la colère vient. Et nous te prions pour tous les chrétiens de ce pays, tous les chrétiens de Toulouse et de nos familles, afin qu'ils reviennent et qu'ils rentrent et qu'ils se placent sur ce chemin étroit. Seigneur, que dimanche, des hommes et des femmes entrent dans le royaume pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.